Bonjour, bonjour, bienvenue en direct de la Bouche de 10 pour ce spécial des poches sous les yeux. Une tradition maintenant, Odile, c'est la combien fois?
Oh, c'est au moins la cinquième fois et puis on est de plus en plus nombreux. Là, vous pouvez voir la plupart des chroniqueurs assidus qui sont là.
Ceux qui seront peu sont pas là, sont contents déjà.
Non, c'est pas vrai.
Ils viennent se fâcher avec la moitié des chroniqueurs, bravo. En tout cas, c'est des chroniqueurs qui s'intéressent à la littérature mais à la musique aussi.
Oui, puisque exceptionnellement, on ne va pas vraiment parler de littérature aujourd'hui, mais vraiment de musique, de livres qui parlent de musique ou de livres faits par des musiciens.
Et on va aussi passer beaucoup de musique, puisque si on parle de musiciens, on va aussi les écouter.
Ah, mais bien sûr, on va illustrer chaque livre dont on va parler par une petite pause musicale.
Bravo. Alors, on va commencer par Daniel. Salut, Daniel.
Salut.
Toi, tu es un vieux rocker et donc tu nous parles d'un livre qui s'appelle « La fièvre de la ligne blanche » de Lemmy Kilmister, chez Camion Blanc. Lemmy Kilmister, c'est qui ce gars?
Alors Lemmy Kilmister, c'est le fondateur de Motorhead. Et effectivement, moi, je suis un vieux rocker, et lui, c'est encore un plus vieux rocker que moi.
Ça existe.
Et oui. Et on parlait tout à l'heure d'écrivain musicien, et on peut parler d'écrivain. L'auteur de cette biographie de Motorhead, c'est un musicien, c'est Lemmy Kilmister. Je ne pensais pas qu'il savait écrire autant, mais c'est bien.
Donc, et il écrit sur quoi? Sur sa vie?
Alors, il écrit sur l'aventure sur Motorhead et sa personnalité, ce quoi, parce qu'il est le fondateur. Et c'est même lui qui a trouvé le nom de Motorhead dans le groupe avec lequel il avait joué juste avant Motorhead dans les années 70, qui s'appelait Oak Queen.
Ouais, donc il parle aussi de ce groupe.
Il parle de toute son enfance et sa prime enfance et après toutes ses aventures. Toutes ces aventures liées à la dope, liées à la cam, liées à la musique aussi.
Et ces aventures féminines aussi ou pas?
Alors oui, ça c'est récurrent dans l'ouvrage, même si c'est quelqu'un qui est foncièrement misogyne.
Et pas très beau non plus.
Alors contrairement à ce qu'on pense, il est beau, il le dit lui-même.
Ah mais vraiment c'est contrairement
à ce
qu'on
regardez,
pense. Hein.
Magnifique.
Il y a des gros boutons sur les joues.
Alors... Effectivement, il a de gros boutons partout et il a l'air vilain comme ça. Mais un magazine, je crois que c'est NME ou Kerrang, je ne sais plus, dans les années 80, avait fait un classement des hommes les plus sexy en hard rock, je vous rassure. En hard rock. Et il était numéro 2, il le dit lui-même, parce qu'il était juste après David Coverdale, le chanteur de Whitesnake, parce que David Coverdale, il a des jolis cheveux et lui, non. C'est ce qu'il dit clairement.
Et alors Motorhead, ça veut dire quoi?
Alors j'ai cherché longtemps moi ce que ça voulait dire Motorhead et j'ai eu la réponse. Il jouait dans un groupe qui s'appelait Oak Queen. C'est du rock psyché à géométrie variable. Il y avait trois batteurs, deux guitaristes, quatre chanteurs. Et lui a joué dans son plein. C'est là qu'il a commencé à jouer la basse d'ailleurs, parce qu'au départ c'est un guitariste. Et c'est au moment de quitter Oak Queen qu'il a composé un morceau qui s'appelait Motorhead. Motorhead, en fait, c'est l'équivalent des accros au speed, puisque en fait, on voit bien dans sa bio qu'il passe allègrement on a l'impression qu'il passe du bol de chocolat chaud au speed. Et puis, tout au long de sa vie, il est au speed, sauf maintenant, où depuis septembre, là, il est un petit peu moins au speed.
Et il a tenu longtemps quand même, parce que à ce rythme-là, on aurait pu penser qu'il allait passer l'arme à gauche rapidement. Là.
Et oui, c'est une énigme médicale. D'ailleurs, un peu cabot, il le signale à un moment dans son ouvrage, parce qu'il a quand même tout essayé. Alors, avec une exception, c'est qu'il ne se fixe jamais d'injection. Tout ce qui se fume, c'est fait. Tout ce qui se boit, c'est fait. Et tout ce qui se gobe, c'est fait.
Et à un moment, il parle d'une transfusion sanguine.
Alors, la transfusion sanguine n'a pas été possible sur son corps, parce que ça aurait été fatal, a priori. Et il dit qu'il souhaite quand même léguer son corps à la science-fiction médicale. C'est quand même assez énorme.
Alors l'histoire de Motorhead, c'est quoi?
L'histoire de Motorhead, elle commence en 75, donc après l'éjection de Lemmy du groupe psyché Oak Queen, il décide de repeindre ses amplis en noir et de refaire le groupe le plus sale du rock'n'roll. Il monte donc Motorhead avec deux acolytes dont on a complètement oublié le nom, et ça n'a pas grande importance, c'est pas le noyau de Motorhead. Et puis le premier morceau qui est composé, c'est d'ailleurs White Line Fever, qui, dont l'ouvrage de Camion Blanc est maintenant.
C'est le nom de l'ouvrage.
Voilà, merci. C'est bien. Comme
c'est
ça.
Bien.
Ouais. Et très rapidement, ils se mettent à faire une musique assez radicale. À partir des années, et ils ont un succès immédiat entre 79 et 82, c'est l'apogée de Motorhead. Et encore aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à avoir ce retour de succès. C'est là où ils sont en top of the pop en Angleterre, ça cartonne de partout. Et c'est tous les albums mythiques, dont Ace of Spades. Et paraissent à cette époque-là. Ce qui le chagrine quand même beaucoup, il le dit dans l'ensemble de l'ouvrage, c'est que la plupart des gens qui écoutent Motorhead s'arrêtent en 82. Et depuis 82, lui, il continue à jouer, mais il vend très, très peu d'albums.
Il est très critique sur l'évolution musicale. En fait, lui, il dit que je fais du rock'n'roll, Motorhead, c'est du rock'n'roll, point.
Oui, là, il ne l'évoque pas trop. Il ne fait pas de comparaison. Il continue sa ligne rouge. Et il fait toujours la même musique. Enfin, non, faut pas le dire. Il dit que c'est pas bien. Il fait pas toujours la même musique. Parfois, il a dit qu'il avait évolué.
Bien. C'est publié au Camion Blanc.
Oui.
C'est quoi cette maison d'édition bizarre?
Alors, c'est un des points d'intérêt du choix de ce livre, c'est que je voulais absolument lire un ouvrage édité chez Camion Blanc. Donc, j'ai un peu cherché. Camion Blanc, c'est un ouvrage qui a été une maison d'édition qui a été créée par deux auteurs qui, il y a maintenant 20 ans. Qui ne trouvaient pas d'éditeur pour un bouquin qu'ils voulaient écrire sur Joy Division. Donc ils se sont dit, puisque personne ne veut notre ouvrage, on va créer notre même maison d'édition, le Do It Yourself, on connaît bien quand même à béton. Donc il y a des liens. Et depuis...
Le catalogue est hyper impressionnant. Hein.
Alors, oui.
C'est, franchement, tout fan doit connaître cette maison d'édition Camion Blanc, parce qu'il y en a pour tous les goûts.
Ah oui, complètement. Ils doivent éditer environ 40 ouvrages à l'année, ce qui est énorme. Et c'est quand même un éditeur indépendant, qui a un modèle économique assez simple. C'est-à-dire que les tirages n'excèdent pas 200 exemplaires. Ils ne tirent qu'en numérique. Ça fait que parfois, il y a quand même des choses un peu curieuses sur le numérique.
Ah oui, c'est apparu.
Ça, c'est le livre de la médiathèque.
Et puis, ouais. Alors, ça explique peut-être pourquoi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des spécimens. En fait, ils ne m'en ont pas envoyé. Mais si c'est une toute petite maison d'édition...
Si c'est en numérique, ils ne vont pas t'envoyer de spécimens.
Oui.
Effectivement. Donc, je comprends qu'ils ne l'envoient pas. Alors, ils ont un best-seller, mais qui n'est pas dans le catalogue de Camion Blanc, mais qui est dans le catalogue de Camion Noir. Puisqu'il y a Camion Blanc, c'est la maison qui secoue le rock. Et puis, Camion Noir, c'est la maison qui sent le soufre. Et le best-seller de Camion Noir qui fait vivre Camion Blanc, c'est la Bible satanique de, j'oublie le nom de l'auteur, paru dans les années 60, qu'eux ont réédité et qui se vend, ils en sont à plus de 10 000 pour eux, c'est énorme.
Une dernière parution, j'ai noté qu'il y avait un bouquin sur le mouvement punk, un autre sur Groovin, un autre sur Daft Punk.
Oui.
Ça, c'est dans les 3 ou 4 derniers mois. Quoi.
Sur Camion Blanc ou Camion Noir?
Camion Blanc.
Camion Blanc, oui.
Ouais.
Ah oui, c'est... Alors, ils ont une partie du catalogue qui est de l'édition fraîche, et une partie du catalogue comme celui-ci, comme cet ouvrage de Lemmy Kilmister qui est de rachat de droits étrangers.
Alors comme on va parler juste après avec Vince, avec Vincent de Mick Jagger et des Stones, les rapports entre Motorhead et les Stones, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en pense des Stones?
Alors il en parle au début, Lemmy Kilmister des Stones, parce qu'il n'aime pas les Stones. Il trouve que ce sont des petits garçons bien gentils, issus des quartiers riches, et il est fan des Beatles, qui trouve des liens entre son comportement et les comportements des Beatles. Il aime bien le côté rebelle. Et puis il y a un épisode où il va quand même dormir chez maman Ron Wood. Qui est assez cocasse.
Ouais, il dit beaucoup de mal de Keith Richards et de son bouquin en disant que. Transporter de la drogue quand on a des avocats qui peuvent nous sortir de prison facilement, ça c'est pas du rock'n'roll, et que les Rolling Stones n'ont jamais connu le vrai rock'n'roll parce qu'ils sont trop riches depuis trop longtemps. Voilà,
c'est complètement. Ouais.
Donc merci Daniel. On va écouter.
On t'entend pas. Voilà. Qui sert à lancer les concerts, tout simplement. Vous allez voir, ça déménage.
Motorhead tout de suite. We'll be right back. Retour en direct de la Bourse 10 pour ce spécial des poches sous les yeux musical avec Vincent.
Salut.
Vincent, salut. T'as choisi de parler de Bégodeau. Est-ce que c'est sérieux, quoi ?
Écoute, est-ce que c'est sérieux ? Oui, parce que tout à l'heure en intro, on a dit on va parler de musique, de livres faits par des musiciens. Non, nous parlons littérature avec Bégodeau. Littérature avec un grand L, parce que Bégodeau ne fait pas les choses à la légère. Hein. C'est toujours un peu empoulé, un peu tiens, je suis là, regardez comme j'écris, avec un style effectivement très typé. Et tellement typé que finalement, moi, les premiers livres de Bégodeau que j'ai eu dans les mains, ils me sont tombés
mais
des mains.
On l'aime bien, on trouve que vraiment ce qu'il dit, c'est vraiment très très bien, surtout à la télé, mais dans les livres, c'est un petit peu plus difficile.
Et c'est peut-être ça, en fait, j'étais pollué par l'image que j'en ai à la télé, où il a toujours un regard à contre-champ, un éclairage, mais il a toujours une bouille trop sérieuse, et puis ses mains qui gesticulent devant son visage, c'est quand même très pénible. Et donc, moi, lisant, ouvrant ses ouvrages, j'avais toujours cette image télévisuelle à l'esprit. Et donc à chaque fois, j'ai pas accroché. Mais bon, donc
là, alors,
Bégodeau,
il parle Bégodeau, des Stones. Là, pour,
voilà. Et ben les Stones, j'aime pas plus que Bégodeau au départ, si tu veux.
C'est Audi qui t'a obligé, non ?
Alors non. Alors le premier qui m'a obligé, c'est quand même mon grand frère qui m'a amené à mon premier grand concert en 1982.
Mais qui est ton grand frère ?
On ne sait pas. C'est un secret. Je n'en parlerai pas ici, s'il vous plaît. N'insistez pas.
Il est en train de boire des coups derrière.
Donc c'était les Stones à Longchamp. Voilà, c'était déjà à
1982.
L'époque. Voilà, c'était une grande armada. Ça nous rajeunit pas. Mais en fait, ce que je voulais essayer de prouver, c'est un peu comme la théorie mathématique qui dit que moins par moins, ça fait plus. Est-ce qu'un livre d'un auteur qu'on n'aime pas sur un sujet dont on ne raffole pas, est-ce que ça fait une grande œuvre ?
Et la réponse est ?
Et la réponse est oui.
Génial.
La réponse est oui. Parce que vraiment,
c'est bien choisi, c'est ça qui est cool.
Voilà. Alors la réponse est oui parce que c'est 100 pages. Donc 100 pages, ça se goûte par petites lampées. T'es pas obligé de faire un planning pour dire bon, je vais lire 20 pages et puis 20 pages et puis je viendrai à bout. Voilà, tu peux le picorer. Et je pense que l'écriture de Bégodeau mérite d'être picorée parce que sinon, c'est vite un peu lourd. Mais voilà, donc son livre s'appelle Un démocrate, Mick Jagger 1960-1969. Bon, déjà ça pose, hein, c'est pas un livre sur les Rolling Stones, c'est pas un livre sur Mick Jagger, c'est un livre qui se la pète un peu.
Hein. Oui, parce que c'est étonnant comme titre.
Les dates 1960-1969, pourquoi faire ?
Mais oui, hein,
pourquoi 1960 ?
J'allais vous le demander.
Alors 1960, c'est la date de naissance de Mick Jagger, futur leader des Stones. C'est la date à laquelle il rencontre Keith Richards sur un quai de gare. C'est la légende qui veut ça, mais elle est reprise mot pour mot par Bégodeau. Donc il se rencontre sur un quai de gare de Bradford et Mick Jagger a sous le coude 3 10, 78 tours de Muddy Waters, Chuck Berry et Little Richard. Et donc forcément Keith regarde les Scuds et ça fait titre. Ils se disent tiens, faisons du rock ensemble.
Alors, c'est facile le rock and roll.
Voilà, à l'époque ça s'appelait pas encore du rock, hein, ça s'appelait plutôt du blues. Et quelques années plus tard, ils vont commencer à gratouiller et ils vont rencontrer un peu plus tard Brian Jones et en 62 former les Stones.
Et 69 alors, pourquoi ?
Alors 69, je ne vous le dirai pas parce qu'il faut quand même lire ce bouquin.
Non, c'est con, j'avais plein de questions là-dessus.
Ok, alors pourquoi 69 ? Parce que 69, c'est le concert à Altamont à la fin de la tournée aux États-Unis. Concert qui a été repris dans un célèbre film où on voit finalement ce concert complètement dégénéré, les Hells Angels qui avaient été engagés pour faire le service d'ordre, qui avaient été payés à coups de bière, finalement foutent sur la gueule n'importe quelle excité qui voulait monter sur scène. Et au résultat, il y aura 4 morts, dont un, on voit sur le film, qui soi-disant est en train d'essayer de tirer sur Mick Jagger.
C'est un film qu'on peut voir sur YouTube, hein, qui est en vision complètement libre. Gimme Shelter.
Gimme Shelter, donc qui est le titre d'un film, d'un titre, un titre qui est sur Let It Bleed, l'album de 69 des Rolling Stones. Alors en fait, pourquoi il dit que les Stones et Mick Jagger meurent en 69 ? C'est la date pivot à partir de laquelle les Stones vont devenir une grosse machine. Les Stones vont être représentés par un logo, cette fameuse langue pendue, cette langue de Mick Jagger, mais qui est figée, alors que pendant toutes les années 60, cette langue frétillait et incarnait l'homme sur scène qui n'était plus qu'un artiste, qui était un corps sur lequel la société allait projeter l'ensemble de ses fantasmes. Le fantasme des années 60, il faut se remettre en arrière. Aujourd'hui, on est dans une société complètement décadente où n'importe qui peut se mettre à poil sans que ça fasse de scandale, à part les femmes.
Quand même. De moins en moins.
Alors que dans les années 60, chaque centimètre de cheveux en plus était un véritable pas sur la lune. Voilà ce que nous dit Bégodeau et c'est ça qui est plaisant parce qu'il le dit avec la même...
Non, on n'est pas dans la même merde, nous, alors.
Il est dans la même fougue que j'ai aujourd'hui. On est comme lui comme Bégodeau, comme moi qui lis ce livre, on est sur scène avec Mick Jagger en train d'être un corps pour le peuple, pour la foule, et c'est en
ça. Et depuis 69, il s'emmerde alors Bégodeau, c'est ça le truc.
Alors effectivement, il n'a jamais connu, il est trop jeune ce Bégodeau, hein, ouais. Et déjà, voilà, bon, il n'a jamais aimé les Stones de son vivant, et donc il a un peu cette nostalgie d'une... d'un mouvement qui s'essaye.
Ils sont pas morts, ce que tu dis là.
Si, ils sont morts. Pour Bégodeau, ils sont morts. Et je pense que pour le rock'n'roll, ils sont morts aussi.
Pas du tout.
Alors, ils sont peut-être encore vivants pour le bon vieux rock'n'roll. Une espèce de pastille Vaida qui vous ferait téléporter dans un ancien temps où tout était meilleur, tout était plus jeune. Et effectivement, c'est RFM, tu vois. C'est RFM, les Rolling Stones.
C'est nostalgie même.
Voilà.
C'est...
Alors que dans les années 60, ça tatillonne, ça hésite, ça chante faux. Et on s'en fout finalement, et on découvre un peu le pouvoir des guitares qui au début sont des guitares acoustiques et qui vont devenir des guitares saturées pour arriver dans les années 70 à quelque chose d'encore plus violent, d'encore plus tripal sur finalement le punk rock qui aboutira, je passe sur le psychédélisme et Motorhead, hein, qui est un détail de l'histoire de la musique, et pour aboutir dans les années 75 avec effectivement le punk rock qui réinventera finalement, d'après Bégodeau, ses pas hésitant du début des années 60 où finalement les gens créent mais ne savent pas vraiment ce qu'ils créent. C'est en ça que c'est révolutionnaire.
Et donc François Bégodeau, c'est publié où?
Alors c'est chez Folio. Alors juste un détail, c'est marqué un démocrate parce qu'effectivement il institue le rapport entre Mick Jagger et la foule qui fait Mick Jagger qui fait la foule, et ce miroir et cette mise en perspective, comme on dit en littérature, Odile,
cette mise en abîme
scénique. Et ce qui, en fait, nous fout la trique.
Et en 69, il se passe autre chose pour les Stones.
Alors, bien sûr, ben en oui. 69, c'est la mort de Brian Jones.
Bravo.
Brian Jones qui avait été évincé pour des raisons de santé, de drogue et d'absence chronique. Donc, en fait, deux jours après sa mort, ils sont à Hyde Park. Il y a un grand concert devant 300 000 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, Mick Jagger, il dit, on fait le show. Parce que Mick Jagger, c'est d'abord un showman. Hein. Et show, en anglais, ça veut dire montrer. C'est pas simplement en français, je
c'est
fais
un
le
peu,
show.
C'est un
le
peu...
show, je montre.
Vincent,
je me
c'est un
montre.
Peu notre Mick Jagger, quand même.
Voilà. Bah, carrément. Hein. Moi, pour moi, en
et
tout
donc,
cas, c'est
non,
un
mais
lieu,
tout
même.
Ça, je prends, en fait, la verve de Bégodeau, que j'essaye de vous retranscrire. Et donc, si,
comme tu prends que sa
voilà,
verve.
Si vous voulez justement être possédé par si et même pour les motoreux graisseux, essayez justement de n'être qu'un corps, de pas être un instrument. Votre instrument est votre corps, grâce à Bégodeau.
Bon, on va écouter Mick Jagger. Alors, je sais pas si c'est avant ou après sa mort, mais je sais pas.
Alors c'est avant sa mort, c'est Stray Cat Blues qui est extrait de Beggar's Blanket,
okay.
Voilà, qui est en 68. J'avais 2 ans.
Et après, on parlera avec Anne de Lou Reed, simplement Lou Reed.
Come on. scratch my back.
C'est la bourse au disque et c'est le spécial des Poches sous les yeux en direct des Halles de Tours. Si vous voulez venir voir les chroniqueurs, ils sont là en chair et en os.
Et les disques aussi.
Forcément. Et Anne est là aussi. Anne va nous parler de Lou Reed, quasiment un an après la mort de Lou Reed. Cette biographie est sortie avant ou après ?
Juste après.
Donc elle s'appelle Lou Reed, une vie de Mick par Mick Wall. Traduit par Mishka Assayas chez Robert Laffont. C'est bizarre déjà que ce soit chez Robert Laffont. Mais
bon, bah, en tout cas, moi, je n'avais pas l'idée de chroniquer un bouquin comme ça. C'est Odile qui m'a proposé de chroniquer la bio de Lou Reed.
Voilà, c'est comme ça, dans les poches où on se fait refiler des bouquins par Odile. Et après, on est tourné à l'antenne, on est obligé d'en parler, bravo.
Alors que, en fait, Lou Reed, eh ben, je le connaissais à peine. Et qu'une bio, pour moi, aïe aïe aïe, c'est vraiment pas mon truc. Et en fait, bah, elle m'a fait un super cadeau.
Moins plus un égale plus. Ah ouais,
c'est la théorie de Vincent encore.
Bon, je connaissais quand même un petit peu Lou Reed. Je voyais le vague rapport avec le Velvet Underground. Et puis, j'avais plutôt de lui l'image d'un mauvais garçon tombé dans le rock'n'roll, la drogue, en même temps que la célébrité. Mais voilà, j'en savais pas beaucoup plus. Je savais à peine qu'il était l'auteur de Walk on the White Side, c'est dire. Quoi.
Ah oui, quand même.
Bon, elle vient juste d'intégrer l'équipe, c'est pour ça.
Ouais, et puis elle n'écoutait pas de musique avant.
Non, mais en fait, si, j'écoutais, mais je savais juste pas que c'était lui, quoi.
Ah. Et alors, donc, après avoir lu le...
Et alors, bah, j'ai découvert que c'était un homme hors du commun. J'ai surtout aussi... Enfin, d'une part, j'ai découvert toute l'histoire de Lou Reed, toute l'histoire des débuts du rock'n'roll, enfin, du rock underground. Enfin, c'était vraiment super. Mais aussi parce que ce bouquin, bah, c'est une écriture incroyable, quoi. L'auteur de ce livre, on voit qu'il aime Lou Reed, mais c'est pas pour autant qu'il écrit en faisant des concessions, en léchant les bottes, etc. C'est plein de verve, plein de punch dans l'écriture. Il en balance un paquet sur le chanteur, sur l'auteur, compositeur, autant qu'il montre son talent, et ça donne qu'une envie, c'est de s'écouter tout Lou Reed en non-stop derrière.
Quoi. Il dit du mal aussi, parce que moi j'ai lu des critiques anglaises là où ils disent qu'il le trouve trop gentil par rapport à ce que Lou Reed était méchant.
Et toi tu dis en anglais ?
Non, mais tu sais, sur Google on peut traduire.
Franchement, il dit du mal, ouais. Vraiment, il dit du mal. Il y va pas avec le dos de la cuillère, mais on sent derrière qu'il y a vraiment, vraiment quelqu'un qui admire en même temps. Ce mec, quoi.
Alors qu'est-ce qui t'a plus surpris dans la vie de Lou Reed alors ?
J'ai découvert déjà qu'il n'avait pas démarré dans la vie d'une façon si facile que ça, bien qu'il soit d'une famille plutôt bourgeoise. À cette époque, le fait que ce jeune homme d'encore à peine 17 ans semble avoir des penchants pour des hommes du même sexe, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique avec électrochocs pour essayer de soigner ça.
C'est incroyable. Hein. Voilà, on a du mal à y croire.
Il s'en tirera avec des tremblements tout le reste de sa vie parce que ça aura entraîné des conséquences sur le plan neurologique. Donc c'est quelque chose qui ne s'efface pas, qui marque réellement le personnage dans tout le reste de sa vie. Il a traîné dans tous les bas-fonds new-yorkais, vivant dans des conditions de pauvreté extrêmes. Mais en même temps, il a côtoyé également tous les grands de cette époque-là, d'Andy Warhol, en passant par toutes les grandes célébrités des années 60-70 du rock. Voilà,
ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux deux énergumènes dont on vient de parler, là, c'est un intellectuel. Quoi. Il s'intéresse à l'écriture, il s'intéresse à d'autres formes d'art.
Carrément, il a même publié des recueils de poésie, alors qu'on n'imagine pas ça du tout quand on découvre l'histoire de Lou Reed. Ils ne sont pas forcément très connus aujourd'hui, mais néanmoins, à l'époque, et peut-être encore pour en voir des. Je ne sais pas s'ils sont publiés aujourd'hui encore, mais. À l'époque, ils avaient été encensés aux États-Unis par les plus grands critiques de poésie de là-bas. Quoi.
Et puis son nom est toujours associé quand même à l'art contemporain. Je me souviens de l'avoir vu à la Fondation Cartier, alors à Jouy en Josas, faisant un concert du Velvet Underground dans un bunker. C'était fantastique et c'était vraiment associé à l'art contemporain. Il y avait une exposition en même temps.
Et il est beaucoup plus connu que ce qu'on pense. Il y a, je ne sais plus qui s'étonnait de l'impact de la mort de Lou Reed, alors que finalement les gens connaissent Walk on the Wild Side et c'est tout. Et pourtant, tout le monde est touché par la mort de Lou Reed.
Alors, effectivement, d'une part, il a créé.
Sauf toi, oui.
Sauf moi. Non, mais en fait, moi aussi, je ne savais pas à quel point je connaissais plein de trucs de Lou Reed sans savoir que c'était lui, tout simplement. D'une part, il a influencé énormément de groupes musicaux derrière, mais jusqu'en 2011, il a continué à faire des concerts et il est toujours été là où on ne l'attendait pas, en fait. En 2011, le concert qu'il a créé, c'était avec Metallica. Ça a fait, paraît-il, un gros flop. Hein. J'étais pas là, mais ça a fait un gros flop. Et en même temps, pourquoi ? Parce que, justement, il fait toujours les choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est récurrent dans toute l'histoire de Lou Reed. Il connaît le succès et après, il fait un disque qui est complètement en décalage avec ce que tout le monde attend de lui. Et donc, ça fait un gros flop. Il retourne sur un succès et re-gros flop. Il va vers les musiques plus modernes quand les autres l'attendent sur un registre plus cool. Mais non, c'est pas. Enfin, voilà, il veut rester dans la création du début jusqu'à la fin, rester quelqu'un qui fait ce qu'il veut et pas ce qu'on attend de lui.
Bien, Lou Reed, donc une vie de Mick Walsh, c'est chez Robert Laffont, donc c'est pas encore en poche.
Mais non, ça... mais je l'attends avec impatience.
Tu vas chroniquer, c'est ça ? Tu te dis, maintenant que j'ai fait le job, je vais faire une chronique. On va parler, juste après avoir écouté Lou Reed, on parlera de Detroit et donc de Iggy Pop, un pote de Lou Reed, forcément. Pas que. Avec Pascal, Remix, le retour en direct sur béton. Donc on écoute Lou Reed, je sais pas quel morceau.
Pas un morceau très connu.
Que toi-même tu connais pas, c'est bien.
Si, mais j'ai oublié le nom parce que c'est pas un des plus connus et je me suis dit autant ne pas mettre toujours les mêmes.
D'accord, ok.
I am a what I want and I want what I see. Could only happen to me.
C'est maintenant en direct des Halles. Pascal,
oui.
Tu vas nous parler de Detroit Sampler.
Detroit Sampler.
Alors, tu l'as lu en entier, ce bouquin? Attends, c'est pas possible.
En entier, oui.
Il est énorme.
Mais j'ai passé un été dessus.
Ah, d'accord.
Un été parce que c'est...
Mais parle dans le micro, oui. Il y a longtemps que tu n'as pas fait de radio.
Ah oui, non, mais c'est la deuxième fois que j'en fais.
Ah oui, c'est ça. Ça,
c'est tous les 10 ans, globalement.
Ah, c'est bien.
Mais c'est ça,
j'ai une chance, là.
C'est ce soir, c'est maintenant.
D'accord.
C'est vous.
Alors donc, tu l'as dit, Detroit Sampler, ça parle de quoi, en fait?
Ça parle de Détroit. Ça parle de la ville de Détroit et d'une ville qui était une ville industrielle depuis les années 20.
Une ville où on faisait des bagnoles.
On fait des bagnoles et le seul truc beau à Détroit, c'est les bagnoles. Autrement, le reste, c'est moche. C'est des quartiers ouvriers, des magasins, quelques rues à pute et des usines.
Pas beaucoup de bourgeois, quoi. Beaucoup de gens
les bourgeois, ils sont dans les villes extérieures. Ils font un peu de grunge dans les années 2000, mais c'est tout. Détroit, c'est vraiment une ville industrielle et musicale. Mais il y a des choses comme la Motown, comme... une underground résistance dans les années 2000 pour la techno. Il y a Eminem qui vient de Détroit. Et tous ces trucs-là, on a l'impression que c'est une ville hors des États-Unis, Détroit. C'est une ville dont les États-Unis ont honte.
C'est une ville qui a été fondée par les Français, je te signale quand même.
C'est une ville qui a été fondée par les Français. Ouais. Et peu de gens le savent.
Bah oui. Nous, on le sait.
Oui, nous, on le sait. Mais qui a été rapidement revendu.
Toi, aux Anglais.
Aux Anglais. Le français n'a pas le sens du commerce.
C'est là, ça. C'est fucking British. Ils ont racheté Detroit.
C'est fucking British. Ouais. Mais bon, Henry Ford, tu vois, par exemple, c'est le One Twin, j'arrive jamais à le dire. Mm-hmm. Et il a un poster de lui dans sa chambre.
Mais alors, donc dans cette ville, dès le départ, il y a des musiciens.
Il y a des musiciens parce que c'est une ville industrielle. Il a fallu plein d'ouvriers. Parce que les usines étaient gourmandes d'ouvriers. T'imagines, Ford, il a fait venir des ouvriers, il s'est payé $5 la journée, parce que qu'il soit blanc ou noir, pas juif, ça l'arrangeait.
Mais quand même. Ouais.
Mais noir, oui, pour qu'il travaille, parce qu'il lui fallait de la main-d'œuvre. Et c'était. Donc après, ces gens-là, ils n'avaient rien à faire, donc pas de loisirs, rien, que de la musique. La musique et débat.
Puis ils avaient des raisons d'être énervés un peu aussi.
Ils avaient raison. Ils étaient, déjà, ils étaient payés, il ne fallait pas qu'ils gueulent.
Ouais.
Par contre, s'ils faisaient un début de grève, là, c'était, t'avais les milices qui arrivaient. Mais ça donnait des endroits avec des concerts. Enfin, je veux dire,
et ça commence par Motown, ce label incroyable.
Il n'y a pas que.
Ouais.
Il n'y a pas que Motown, mais Motown, ça démarre parce qu'il y a les usines.
Ouais.
Parce que Berry Gordy se dit... On va faire comme dans les usines, on va industrialiser la musique.
Ouais.
C'est dur comme mot.
Donc c'est une usine à produire des stars,
Il y a des gens qui travaillent pour écrire, il y a des gens qui travaillent pour la musique, les mecs ils font du black, comme les ouvriers. C'est vraiment une usine. De toute façon, on n'écrit pas le nom des musiciens. Il a fallu que Marvin Gaye qui a demandé que sur un album, il y ait le nom de ses musiciens. Ça a été un scandale au début. On met pas le nom des ouvriers dans le...
Il n'y avait pas Ford dessus, mais presque.
Mais chez une grande résistante, il y avait le poster de Ford,
bah ouais,
mais réellement.
Ouais.
Et alors, donc, il y a Motown, c'est connu, mais après, un mec comme Iggy Pop vient de Detroit.
Iggy Pop, bah, vient
les
de...
Les Stooges, ça vient de Detroit.
Ça vient de Detroit, ça vient de ce côté... on sort de l'usine, on est complètement abruti. Ce qu'il nous faut, c'est du son. C'est du son, c'est des trucs déstructurés, c'est des choses qui évoluent, c'est du bruit, c'est s'abrutir pour sortir de l'abrutissement.
C'est Alice Cooper aussi ?
C'est Alice Cooper, mais alors c'est le seul groupe de metal, de hard rock, les Amboy Duke, d'extrême droite.
Fais gaffe, il y a un motorhead derrière toi. Donc
Si, si, c'est du metal d'extrême droite. T'as Bob Seger, t'as Madonna qui est venue aussi, enfin t'as plein de choses.
T'as les White Strap
qui sont venus. Et tous ces gens-là, ils ont un attrait à Détroit qui est quand même impressionnant. Tu sais qu'on parle...
Il faut quand même séparer le bon grain de l'ivraie quand même. Hein. On ne peut pas mettre toutes les chansons sur le même plan.
C'est-à-dire là. Tu peux utiliser ça pour les White Straps ?
Oui, non. Enfin, même Iggy Pop, Eminem, je vois bien le rapport avec le côté prolo. Mais Alice Cooper, excusez-moi, mais c'est quand même un peu...
On parle de Détroit, on parle de la musique.
Mais est-ce que Detroit ne serait pas le Manchester anglais un petit peu pour la scène ?
Ou le Liverpool, je ne sais pas. C'est vraiment... Non, je
c'est un débat d'experts.
Je ne suis pas très spécialiste de l'Angleterre. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est vraiment un truc ouvrier. Enfin, faut partir du... On est chez les Blancs, mais chez les Noirs, mais c'est que des ouvriers. À la limite, le côté racial, c'est peut-être la seule ville aux États-Unis où la race ne compte moyennement. Parce que c'est vraiment mélangé. Enfin, je veux dire, à part le... Il n'y a pas eu beaucoup à Détroit de... Il y a eu un peu de hillbilly, il y a eu un peu de punk hardcore blanc, mais c'est généralement, tu n'as que des groupes mix. Enfin, je veux dire, par exemple, t'as, dans les années 71, le premier vrai groupe punk, c'est un groupe black qui s'appelle Dead. C'est des Noirs qui font du punk.
Et c'est à Détroit.
Et c'est né à Détroit. Enfin, je veux dire, musicalement, tu as plein de choses qui sont venues à Détroit.
La techno est née à Détroit aussi.
La techno était à Détroit, mais c'est toujours minimaliste, c'est toujours répétitif. On est toujours sur le côté usine. Il y a toujours un... Et le côté usine reste quelque chose qui a marqué même un mec comme Louis-Ferdinand Céline. Il parle dans Voyage au bout de la nuit, il parle des usines Ford à Détroit. Du côté répétitif.
Les intellos confirment.
Et ça, c'est vraiment... C'est... Jim Jarmusch, dans son dernier film, il a utilisé Détroit. C'est une ville qui est musique. Sur ce livre Détroit sans pleurs, il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans les premières pages,
un sommaire.
Un sommaire, mais aussi tu as une playlist.
Ah oui.
Sur le livre, à chaque fois que tu as un morceau, tu as un petit haut-parleur, un joli haut-parleur qui te renvoie sur
le site, ouais, tu peux parler du site.
Où tu écoutes la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai passé le temps à lire le bouquin, à écouter le. Tu as une centaine de morceaux qui te scannent, qui te font vraiment une cartographie de la musique de Détroit des années 20 à 2000.
Alors, peut-être pour finir, on peut parler de l'auteur, parce que vous faites les malins. Là. Est-ce que vous savez qui est Pierre Eville ?
Non.
Il le sait, Pascal. Donc,
Bah oui, il a préparé son truc.
Bah oui.
Il a 12 pages qu'il n'a pas lu.
C'est qui ce loustique, là, Pierre Eville ?
Pierre Eville, alors, il avait aussi écrit un livre sur...
Le rap.
Berlin. Et il va écrire un livre sur Liverpool.
Et il a écrit un livre sur...
Et il a écrit des discours à François Hollande.
Ouais, il a écrit Gangsta Rap.
Il a écrit aussi Gangsta Rap.
Ouais. Et c'est la plume de François Hollande.
Vous dire
plusieurs, parce qu'il y en avait un autre aussi qu'on avait chroniqué.
Oui, mais il a été vidé, là. Il a été bordé. Un problème de chaussures.
c'est rock'n'roll. Donc, Détroit sans pleurs.
Alors, c'est sur un éditeur que je ne connaissais pas.
Voilà. Qui s'appelle comment, d'ailleurs ?
Mais c'est un nom un peu incompréhensible, honnêtement.
Si je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas dire. Ohlendorf Dessin. Tu connais ?
Mais en tous les cas, ça se lit comme... C'est un livre qui mélange sociologie, économie et politique. Et puis, il y a une chose qui est intéressante, c'est le... Il y a une bibliofilmographie qui est de 11 pages et il te renvoie à des livres sur l'économie, à des livres sur l'histoire, sur la sociologie. Enfin, vraiment, moi, c'est le genre de bouquin qui te permet de découvrir une ville et puis d'aller vraiment au fond des choses. Et musicalement, chaque époque est vraiment scannée et il te raconte des anecdotes. C'est vraiment un truc totalement passionnant.
Détroit qui était en faillite, une ville en faillite.
Enfin,
encore pas
c'est, la, c'est la seule ville aux États-Unis qui a été déclarée en faillite. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est un truc, quand tu lis ce bouquin, tu comprends pourquoi il y a un attrait physique vis-à-vis de certains musiciens, vis-à-vis des gens sur cette ville. Enfin, c'est une mégapole, mais qui est, c'est un espèce d'œuf vide, mais le vide, il est super plein.
Merci. Oh, c'est ça. Beau. Merci, merci
et,
Pascal. Qu'est-ce qu'on écoute
quoi? Et pour
quoi,
ceux qui avaient vu Sugarman là, eh ben on le voit le se balader dans Detroit. Oui.
Alors
aussi.
Sugarman,
le retour de Sugarman,
qui est une limite, une escroquerie quand même, faut le dire.
Ah, merde, oui, alors là ça dépend. Ça dépend sur quel site tu vas.
Déjà... Oui. Alors, mais on écoute quoi? Parce que
alors là, on écoute
Dead. Politician in My Eyes.
Donc le premier groupe punk
américain des Blacks et qui tourne actuellement.
Dead. Ouah, le punk.
Ouais, il va falloir assurer derrière.
On revient en France, ça va être un peu moins punk.
Non, c'est pas vrai, ça va être punk.
On va parler de Gainsbourg, on va parler de Bachung avec Charlie, puis je garde le meilleur pour la fin. Parce que David
une apothéose finale.
Une apothéose avec Odile.
Oui, ce sera l'apothéose, c'est certain. Le côté people, on va dire.
C'est ça, voilà. Mélanie.
Oui,
alors,
c'est
Mélanie, elle m'a fait plaisir parce que moi, elle m'a rappelé mon enfance presque. À 19 ans, je lisais ça. Et
on avait un débat pendant la pause, incroyable. En fait. Sur.
Mais ce ça, donc, c'est un
Evgeny
roman. Evgeny
Sokolov de Serge Gainsbourg.
Donc, il a écrit un roman.
Il a écrit un roman, un seul roman d'ailleurs. Alors, selon Odile, c'est plutôt une bonne chose qu'il se soit arrêté à un. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on en discutera. Donc, il a écrit ça effectivement en 1980, donc un peu à la charnière en fait de sa période Gainsbourg et avant d'attaquer vraiment la période Gainsbourg. Donc, c'est peut-être dans le livre, on retrouve
c'est
peut-être
un
peu
passage.
Les. Non, mais c'est vrai, il y a peut-être un peu des deux entre le génie de Gainsbourg et puis ce qui peut agacer par la suite. Je pense qu'on retrouve un peu des deux dedans. Alors, moi qui je suis fan absolue de Gainsbourg, je n'avais jamais lu Evgeny Sokolov.
Donc,
ouais, je sais, honte sur moi. Et alors, je dois dire que ça m'a un peu halluciné. J'ai eu l'impression d'avoir un ovni entre les mains. Au bout de deux pages, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, au fur et à mesure que les pages se déroulaient, je me suis dit, mais voilà, c'est juste génial. C'est comme tout ce que fait Gainsbourg, quoi. Et pourtant, alors, si on s'arrête à l'histoire elle-même, ouais. On peut avoir peur. Hein. C'est vrai que, d'ailleurs, je sais même pas trop comment expliquer.
Et pourtant, tu vas.
Je vais pourtant. Donc en fait, c'est une fausse biographie en fait qu'a écrit Gainsbourg sur un peintre, donc qu'il a inventé, Evgeny Sokolov, peintre d'origine russe. Alors on verra qu'il y a des résonances biographiques avec la vie de Gainsbourg. Et le thème, en fait, le livre entier tourne autour d'une particularité physique, on va dire, de ce personnage, qui est qu'il a des flatulences. Depuis voilà sa naissance jusqu'à sa mort d'ailleurs, alors on verra, enfin bref, je reviendrai dessus après. Et donc voilà, il passe son temps à, alors Gainsbourg dit ça de façon extrêmement poétique, il doit y avoir 500 mots différents pour exprimer ça, donc voilà, donc il passe sa vie à avoir des gaz quoi, mais très 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 important. Alors évidemment, ça pourrit un petit peu son enfance, son adolescence. C'est pas facile pour lui dans les à l'internat ou à la caserne, forcément ça lui, il a pas que des copains. Et du coup, il se fait virer d'un peu partout. Il a une jeunesse très turbulente et il se retrouve à l'armée, puis aux Beaux-Arts. Alors, je ne sais pas le lien entre les deux. Mais effectivement, il va s'inscrire aux Beaux-Arts parce qu'il veut devenir peintre. Alors, il commence à gagner sa vie en créant un personnage, alors un peu de comics, hein, un super-héros qui s'appelle Crépitus Ventris. Donc, qui s'inspire... voilà, c'est un super-héros qui se propulse avec ses gaz. Donc, voilà, et il fait fortune avec ça. Et ensuite, donc, alors, voilà. C'est pour ça que je disais que raconter simplement, ça va être assez dur, mais après, je vais expliquer en quoi c'est génial quand même. Alors, Odile ?
Ce que je voulais dire, c'est que moi, dans l'édition que je lisais à 19 ans, c'était une couverture Gallimard, mais qui
NRF.
Était marron. Ouais. Devinez pourquoi ?
Il avait demandé à ce que la couverture ne soit pas blanche, mais
parce que normalement la blanche de Gallimard est là. Mais Pivot l'a interviewé, a fait des blagues, tu sais, en disant qu'il était chez le même éditeur que Marcel Proust. Tu vois, Pivot s'est adapté quand même à l'humour de Gainsbourg. Ouais, ça vaut les hauts. Donc, alors, je vais vous passer les détails parce que je vois que ça choque les bonnes âmes autour de la table. Mais quand même, sa carrière de peintre, il va la devoir justement à cette particularité physique. Puisqu'il se rend compte qu'en fait, en posant la main sur un tableau et bon, en pétant, hein, pour, voilà, ça fait une espèce de courbe, comme je sais pas, les trucs de tremblement de terre, là, je sais plus comment on appelle ça.
Faille.
Non, les trucs sismographiques, hein, c'est ça. Et du coup, tout le monde trouve ça absolument génial. On pense que c'est une création, quelque chose qu'il a trouvé comme ça tout seul. Les critiques s'emparent de son œuvre en disant, enfin, en criant génie, en inventant un nouveau mouvement qui s'appelle l'hyper-abstraction. Donc lui appelle ça des gazogrammes, ces tableaux. Donc il y a une série de dizaines de gazogrammes. Et du coup, voilà. Donc,
à Daniel Gazo, notre chroniqueur fétiche, alias Velvet Voice.
On développera plus tard, je ne sais pas pourquoi.
Désolée.
Mais en fait, c'est une critique de l'art contemporain.
Donc en fait, c'est très, très cynique. C'est un pamphlet absolu sur le milieu de l'art contemporain et puis sur la vacuité aussi de certaines créations. Mais c'est aussi quelque part une souffrance, parce que Gainsbourg a toujours voulu devenir peintre et voilà, toujours renoncé finalement. Enfin, il avait brûlé toutes ses toiles même. Et donc c'est aussi pour lui une façon de revenir sur ses années de peintre qu'il a dû abandonner en fait.
Et c'est aussi finalement, il souffrait beaucoup d'être laid. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on disait.
Mais il était beau pourtant. On voit la couverture du livre.
Il est
beau,
il est
magnifique.
Comme machin de motorette, pareil. Ils sont beaux tous les deux.
Ils peuvent faire un concours.
Et donc certains critiques ont dit, bah, il parle de sa laideur en fait.
Alors en fait, c'est clairement. D'ailleurs, Gainsbourg disait Evgeny Sokolov, c'est moi. Comme Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Lui, c'est Evgeny Sokolov, c'est moi. Et effectivement. Clairement, c'est un double de Gainsbourg et cette particularité physique, c'est une espèce de symbole par rapport à la laideur que lui, enfin, en tout cas, il se trouvait très laid, il en a toujours souffert. Donc, c'était un peu pour sublimer. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de souffrance en fait. Raconté comme ça, comme je l'ai fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, c'est du bigard, bonjour le niveau, etc. Mais ça a provoqué aussi des débats passionnés, ce livre. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent vraiment c'est de la merde, d'autres qui disent c'est génial. Moi, effectivement, sur l'écriture, je trouve ça absolument fabuleux. Et puis surtout, on entend la voix de Gainsbourg, on entend les chansons de Gainsbourg, la moindre phrase, il y a un rythme, mais absolument délirant. Rien que la première. Non, mais vraiment, c'est juste, moi je trouve ça juste génial. Et voilà, sur le plan de l'écriture, c'est un mélange de cynisme, de provocation, mais de quelqu'un qui sait écrire, enfin voilà, Gainsbourg, quoi. Donc je me suis régalée, je sais pas si c'est le terme approprié, mais je valide. En plus, voilà, ça fait 110 pages, ça se lit en une heure. Et puis rien que par curiosité, après on n'aime pas, mais je trouve que si on aime Gainsbourg, en tout cas, c'est dommage de passer à côté.
Oui, en plus, c'est écrit très très gros, hein.
C'est
très très gras, surtout.
Et alors, il a fait un morceau à partir de ça.
Tout à fait. Alors, dans son album, c'est son deuxième album de reggae, en fait, Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Et alors, qui est d'ailleurs aussi le nom d'un tableau de Paul Klee. Donc là aussi, on voit encore une référence à la peinture que Gainsbourg considérait comme l'art suprême, quoi. Il disait que c'était l'art qu'on ne pouvait pas comprendre sans une initiation préalable. Et en opposé à ça, il disait que, par exemple, la chanson, c'était un art mineur.
Et voilà. Mais Guy Béard n'était pas d'accord. Hein,
Comment ça se fait que son micro est encore ouvert? Je ne comprends pas.
Donc, effectivement, alors, vous allez voir que la chanson est à l'image du livre. Hein, donc, c'est un petit peu particulier. Mais ça reprend la thématique dont je viens de vous parler avec gêne et embarras depuis 5 minutes.
Donc, Evgeny Sokolov, Gainsbourg. Thank you. Grosse rigolade en direct de la bourse au disque au Hall. On va parler de Bachung. C'est quoi le rapport entre Gainsbourg et Bachung, messieurs?
Bah, c'est plaie blessure en 1982.
Il est fort. Plaie blessure. Gainsbourg a écrit quasiment toutes les paroles de cet album.
Exactement.
Je le savais pas, moi.
Exactement. Et ça tombe bien parce que je vais vous parler du livre Bachung, Vertige de la vie.
Non, mais alors attends, il pose pas la question. Et mon micro n'est pas ouvert.
Si,
alors,
si, il est ouvert, ton micro. Vas-y. Hein.
Quel est le rapport entre Bachung et Odile?
Entre Bachung et Odile.
Mais ça, je vais te la poser.
Moi, je sais.
Le rapport, mais c'est sa femme.
À la fin de.
Ah, c'est sa femme.
De mon blabla.
Ouais, ouais.
Bon, d'accord.
Ou à la fin de l'émission.
Pour la séance People, alors.
D'accord.
Ok.
Et oui, parce que, évidemment.
Ouais, vas-y, continue.
Donc, voilà, l'idée, c'était justement de parler des collaborations de Bachung. Parce qu'en fait, c'est un excellent musicien, mais il a toujours été entouré. D'autres musiciens et surtout de paroliers. Donc il y avait Michel Bernard, Boris Berman et puis il y a eu Jean Fauque. Voilà, et donc dans Bachung, Vertige de la vie, écrit par Pierre Mikhailov, ça reprend un peu justement tout le chemin et toute la vie de Bachung, en tant la vie d'homme, la vie de chanteur. Et on apprend notamment qu'en fait Bachung c'est plus un coureur de fond qu'un sprinter. Et il a connu le succès finalement assez tard pour un chanteur de rock vers 35 ans. Et avant c'est un peu. Pierre Mikhailov raconte dans le livre que c'est un peu des années de galère à vouloir essayer de trouver un tube, ça marche pas, et finalement le tube il vient parce que Bachung justement travaille avec Boris Berman, parolier donc, et Boris Berman il aime bien les seconds degrés, les jeux de mots, etc. Et évidemment tout le monde connaît les fameux vers qui sont: ça sert à quoi la frite si t'as pas les moules,
ça sert à quoi le cochonnet
si t'as pas les boules. Ouais. Et alors on apprend dans ce bouquin que en fait Bachung buvait beaucoup. Voilà, parce que moi-même je ne suis plus très frais à cette heure-là. C'est ça, c'est le problème d'être avant-dernier sur la liste. Alors je vous parle
même pas
de l'état d'Odile, hein, voilà.
Donc il buvait beaucoup.
Et donc en studio, voilà, il allait souvent pisser, quoi.
Allez.
Donc ça énervait un peu Berman. Et donc quand Bachung revenait, Berman lui mettait des petits mots histoire de le faire rire. Et à la session d'enregistrement de Gabi au Gabi, il a marqué « ça sert à quoi la frite ?» Et Bachung, c'est pas démonté, il a chanté le truc comme ça, là, ils ont gardé cette prise.
Énorme.
Voilà. Énorme. Et voilà. Et donc ça donne le tube qu'on connaît, et c'est là que sa carrière est vraiment lancée, et c'est en 1980. Bon, après, il oscille en 82, il rencontre Serge Gainsbourg, ils font l'album « Plaie blessure », qui n'est pas un succès commercial.
Et qui est pourtant un très bon album.
Oui, c'est là. D'ailleurs, il y a la chanson Volontaire qui sera après Remue au goût du jour avec aussi.
Si vous parlez sans micro, voilà. Personne ne vous entend. C'est la radio. C'est
Volontaire avec Noir Désir. Voilà, il fait après Figure imposée qui est un peu confidentielle. Il retrouve le succès avec SOS à mort. En 86, il fait avec Passer le Rio Grande. Et là, il termine sa collaboration avec Boris Berman. Et il commence à travailler avec Jean Fauque. Mais Jean Fauque, qui est déjà un long compagnon de route, vous en connaîtrez plus en lisant Bachung, Vertige de la vie de Pierre Mikhailov.
Très bien.
Voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Après, voilà. Et ce qui est surtout intéressant, moi, je voulais vous parler aussi de Fantaisie militaire, qui est quand même qui est réédité en ce moment avec des inédits. Et de la chanson La nuit, je mens, qui donne un peu le ton de l'album, qui est un peu le hit de l'album. Enfin, je vous le conseille vivement, en tout cas, c'est vraiment un objet magnifique. Et dans le livre, on apprend comment il travaille avec Jean Fauque. C'est-à-dire que là, cette fois, plutôt que de faire une chanson une par une, Bachung a demandé à Jean Fauque de lui donner de la matière, mais sur une quinzaine ou une vingtaine de textes. Et après, ils ont fait des découpages, des collages, etc.
Ce que tu dis pas là, c'est que Bachung est plutôt malade au moment où ça arrive.
Au moment où ça arrive, il vient de divorcer, ouais. Il vit sa deuxième grosse dépression. Ouais. Il avait une petite maison sympa à la campagne, en banlieue parisienne, et puis là il revient à Belleville dans un appart un peu pourri, un peu comme chez moi, quoi. et voilà. Et du coup, il y a le travail avec Jean Fauque, ça le remet en selle. Et il décide de travailler un peu autrement, voilà, avec des collages, etc. Et la chanson La nuit je mens. Ça, Jean Fauque l'explique très bien d'ailleurs sur internet, vous pouvez aller voir, c'est vraiment intéressant. C'est une chanson qui parle à la fois de l'héroïsme bidon un peu, Et puis à l'époque, il y avait les procès Papin, le passé de Mitterrand qui ressortait un peu douteux, etc.
Papon,
oui, parce que Papin, c'est je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, Papon, voilà. Et il voulait faire un peu une chanson comme ça sur les héros de la 25e heure. Et on m'a vu dans le Vercors. En fait, c'était juste un titre une première ligne de Jean Fauque. Et après, ils ont retravaillé ça. Ils sont partis dans d'autres directions entre le conscient et l'inconscient. Et bah, je vous propose d'écouter ce texte magnifique que tout le monde connaît.
Magnifique.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, je me suis pas fait prier. J'étais gant de crin, geyser. Pour un peu, pour un dos, je prolongeais. Histoire d'eau. La nuit, je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, d'où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'accueil. La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mange, je prends le train à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho.
Cette version, en fait.
Alors ça c'est la version qui est sur la réédition de Fantaisie Militaire qui vient de sortir là il y a pas très longtemps. Il y a environ 10 inédits voilà et ça rebondit un peu sur ce que je disais avant sur le fait que voilà en fait pour cet album Bachung a amené des chansons comme ça un peu des versions un peu plates juste avec une petite boîte à rythme et chant guitare et il a laissé les musiciens après le travail avec Jean Fauque et les paroles faire un peu ce qu'il voulait. Donc il s'est entouré de bidouilleurs pour l'album.
Et les musiciens, moi j'ai vu qu'il y avait un guitariste qui a bossé avec lui sur cet album.
Super guitariste, le guitariste de Portishead.
Portishead,
il a aussi travaillé notamment avec Rodolphe Berger.
Ouais.
Et l'ingé son ou le réalisateur des Tindertix. C'est lui qui a mis tout ça en boîte. Donc il y avait quand même du beau monde. Et puis aussi les Valentins,
ouais,
qui n'ont jamais été aussi bons que sur cet album.
On peut le dire.
Alors, voilà. Est-ce que je peux livrer une petite question là, pendant le off, là, on parle un petit peu. Et puis on est tous d'accord, Bachung, c'est absolument génial. Et puis il y a Audi, la débile de service, là, qui dit, mais c'est génial, mais je n'ai jamais rien compris.
Alors, pour rebond, ce que disent, par exemple, pour La Nuit, je mens. Voilà, que
quand
dire
off,
voilà, parce que, voilà. Pour la... Non, je la tape pas.
Non, mais tape pas.
Pour La Nuit, je mens, en fait, les paroles de départ, c'était de Jean Faux, c'était La Nuit, je mens, et je mentirais si je disais que je mentirais. Et alors, Jean Faux qui est Bachung, ils discutaient avec... avec le nombre de bouteilles qu'il fallait, et ils se sont dit, à un moment, en fait, non, on va juste garder La Nuit, je mens, comme ça, les gens, ils vont pouvoir se faire leur propre film, imaginer la chose. Il n'y a pas besoin de leur expliquer.
C'est un peu comme de la poésie, quoi.
Exactement. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, tout le monde s'y retrouve, et ça explique un peu le succès populaire de cet album. Voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Est-ce que tu as compris, Audi, ce que je viens de dire?
Toujours pas, non.
D'accord.
Et bah, j'aime toujours, mais non, je trouve que voilà, ton explication n'est pas...
Non, vous voyez mon calvaire.
Merci.
Vous voyez mon calvaire.
Merci, Charlie.
Merci, Patrick.
On va essayer de rester au même niveau, quoique, puisqu'on finit cette émission avec...
Ah mais, non, on avait dit du people, et puis on... Attends, mais les auditeurs, là...
On a oublié le principal, mais excuse-moi. Oui. Quel est ton rapport avec Bachung?
Ah oui, excusez-moi.
Quel est mon rapport avec Bachung? C'est que sa nouvelle femme, Chloé Mons, c'est la fille de mon prof de yoga à Lille.
Non, incroyable. C'est vrai.
Et oui.
Et le problème, c'est qu'il l'a fait chanter,
oui, c'est quand même,
jouer avec lui sur scène.
C'est incroyable. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que... Donc, séparation, etc. Bachung fait fantaisie militaire pour s'en remettre. Le clip est tourné par Audiard, dont je vous
et
conseille.
Et dedans, il y a les seins de Chloé Mons.
Ah, les seins que je n'ai pas vus, mais toi, tu les as vus. Mais voilà. En tout cas, le clip est très beau. Voilà.
En tout cas,
c'est ça,
Chloé
c'est ça le point commun entre toi et Chloé. Ah, d'accord.
Non, pas du
tout. J'ai pas bien remarqué.
Chloé Mons dans les cides. Dans les concerts, okay, de rock,
enfin, voilà. C'est l'émission commence
à se... Habile transition vers le people.
Exactement.
Allons-y. Puisque le dernier livre dont nous allons parler, c'est 28 boulevards des Capucines de David McNeil. Alors, on avait dit, et c'était même toi qui l'avais dit, Odile, cette émission est consacrée aux musiciens et à la littérature. Et tu as choisi David McNeil. Il y a un truc que je ne comprends pas là.
Bon, j'ai pas entendu ta dernière phrase, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'ai choisi de parler de people. C'était ça, la question.
Ça, ouais. Tu parles pas de musicien, tu parles de people.
Ah, si. Attends, je parle d'un musicien, et pas seulement un musicien. C'est un chanteur, un parolier. Alors, certes, c'est quelqu'un qui a fait plein de disques, qui n'a pas rencontré le succès, comme on dit.
Ouais.
Mais il l'explique parce qu'il a la peur du torchon. Le torchon, c'est le rideau rouge sur la scène. Il a le trac, donc il préfère être derrière les musiciens que devant. Ça lui arrive, hein, mais la plupart du temps, il préfère être parolier. Et alors, parolier de chanteurs hyper connus de la chanson francophone.
Son plus gros titre, celui qui fait vivre, c'est quoi?
Pas. Alors, son plus gros titre, c'est Mélissa
Messi.
C'est ça.
Ok, c'est ça. Donc, Julia Clerc, on est bien d'accord.
Oui, mais alors, avec ce titre-là... Mais mon micro, il fonctionne.
Et bien sûr,
oui.
On s'entend. Ouais.
Avec ce titre-là, lui qui ne mangeait que des patates à l'eau, un jour, il a ouvert une enveloppe qu'il reçoit par la poste, c'est les droits d'auteur, et là, 1 million de francs, grâce à Mélissa Métis. C'est dit bizarre. Et alors, il y a
Nivek, je pense que tu fous, fais donc à Mélissa, quoi. C'est facile.
Non, mais... Alors, il y a plein d'anecdotes sur ce titre, dans ce livre. Ce livre est truffé d'anecdotes, d'abord. Mélissa Métis d'Ibiza, il a écrit en pensant à Halle Berry, qu'il avait déjà rencontré. Et
Halle Berry, hein, je traduis pour les noms d'anglais.
Voilà. Et puis, donc, lui qui a... David McNeil a beaucoup évolué dans le milieu de l'art contemporain. Et donc, il voulait absolument associer Matisse. Et donc, normalement, c'est... Ta Mathématisse. Et donc, Julien Clerc lui dit, mais non, mais Matisse, personne ne connaît. Ils vont dans la rue, ils font un petit sondage vite fait. Et en effet, Matisse, personne ne connaissait. Et c'est comme ça que c'est devenu Ta Mathématisse et pas Ta Mathématisse ou Ta Imité Matisse.
Et on comprend qu'elle ne comprenne pas Bachung, en fait.
C'est méchant.
Oui.
Attends, bon. J'ai un quiz à faire avant de te
relancer.
Mais
c'est dégoûtant.
Je peux le faire tout de suite quand même. C'est parmi les trois artistes suivants, lequel n'a pas chanté une chanson de David McNeil? Mireille Mathieu, Sylvie Vartan ou Philippe Laville?
Les trois ont chanté.
Bravo.
Ah,
bravo.
J'ai lu le
bravo.
Livre.
Ouais, bravo. Ouais. Bien joué.
Oui, en fait, donc David McNeil, pour ceux qui ne le connaissaient pas, comme moi, je ne le connaissais pas avant de lire ce livre, c'est quand même quelqu'un qui a fait une carrière depuis la fin des années 60 jusqu'à maintenant. Alors, carrière en dents de scie, mais même cette année, il a encore sorti un album. Il a eu deux fois, ce qui est exceptionnel, le prix Charles Cros de la chanson française. En 91, il a eu 3 F dans Télérama, plus chanson France Inter, disque France Inter. C'est assez incroyable.
C'est fou.
Mais non, mais et moi, je le connaissais pas.
Ah, c'est ça.
C'est dingue.
Ah, ouais. Et maintenant que tu le connais, ça, c'est mieux, hein, ça va mieux.
Pardon ?
Maintenant que tu le connais, ça va mieux ?
Eh bien oui. Mmh. Alors, parce que, comme tous les autres, hein, je vais avoir droit à ma petite chanson fétiche après. Mmh. Et vous verrez que David McNeil, hein, qui a l'air d'un ringard comme ça, eh bien, en fait, quand je l'écoutais, j'ai cru que c'était Bertrand Belin. Donc, c'est un grand échalote de 2 mètres. Il a une voix fantastique. Il joue avec les mots. Et je pense qu'il a, il n'est pas né au bon moment parce que maintenant, je pense qu'il aurait un succès fou. Bon, on n'a pas un succès fou quand on a 70 ans, mais voilà, c'est dommage. Et alors, bon, tu ne me demandes pas de parler de ce livre, alors
bah
qu'il
si,
est formidable.
C'est ce que je te demande depuis
donc,
le début.
David McNeil. David McNeil, il nous raconte sa vie. Donc, il mange des patates. Il essaie de jouer, de faire la manche. Il ne s'en sort pas. Mais quand il s'en sort pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a Yves Montand qui l'appelle en disant « Oh, écoute, David, j'ai besoin d'un parolier pour me faire toutes mes chansons. Tu peux le faire ?» Et il répond « Banco ». C'est pas formidable, ça?
Si, si.
Et alors, pourquoi est-ce que Yves Montand l'appelle?
Oui, pourquoi?
Pourquoi? Parce que David McNeil, c'est pas n'importe qui.
C'est son gendre?
Non, c'est le fils de Marc Chagall.
Ah oui.
Il a d'ailleurs fait un livre qui raconte toute cette vie de bâtard... Et donc, voilà pourquoi il a un entregent incroyable et qu'il a vraiment, quand il cherche un photographe pour faire des couvertures de 33 tours, c'est pas n'importe qui, c'est Douaneau.
Ah ouais.
Tu vois, on est vraiment dans la cour des grands, donc il a eu des périodes vaches maigres. Maintenant, grâce à Mélissa, il est riche. Et donc, voilà pourquoi il a écrit ce bouquin, parce que 28 boulevard des Capucines, pour les Parisiens, ça veut dire quelque chose, c'est l'adresse de l'Olympia. Et c'est un concert qui s'offre, pour se faire plaisir, parce que ça ne va pas lui rapporter de fric, pour ses 50 ans, il s'offre l'Olympia avant que l'Olympia soit détruit. Et donc, là, il voulait absolument être sur scène, là où il y a eu Brel, Dylan, son chanteur fétiche, les Beatles et compagnie. Et il invite tous ses copains, donc il y a Woolsey, Julien Hitler, Maxime Le Forestier, Renaud, Alain Souchon. Et donc, ils se font plaisir, vraiment.
C'est tant mieux pour eux. Hein.
Pardon ?
Tant mieux pour eux, je dis.
Tant mieux pour eux, ah, oui. Mais pour les gens, je pense que c'était... les gens présents, c'était exceptionnel aussi. Je n'y étais pas, parce que c'était en 97 et j'avais autre chose à faire ce jour-là. Mais oui, je rencontrais Vincent Robert. Donc,
ah, ouais,
voilà.
Ouais.
Mais c'était fantastique. Et donc, chaque chapitre est le titre d'une des chansons qu'il va chanter lors de ce concert exceptionnel, avec des anecdotes concernant chaque artiste. Et franchement, donc, d'où le côté people, mais c'est très, très intéressant. C'est comme un gala Paris Match. C'est bien écrit et franchement, je le conseille à tout le monde.
C'est chez Folio ?
C'est chez Folio parce que tous les livres de David McNeil sont parus chez Gallimard.
Et alors, on va écouter une chanson de David McNeil.
Et vous allez voir, si vous ne pensez pas à
ça,
Bertrand
c'est quand même
Belin,
incroyable.
Je ne comprends rien.
Allez, David McNeil.
Paganini, ni Beethoven, t'as pas de peine. Mais déchire pas ma lettre avant même que ta mère la lise. Lise, lise, faut que je te dise que moi je joue carte sur table. C'est pas comme ses grands-pères qui suivent tout ce qui porte un cartable tout nu sous leurs impairs devant les églises. Lise, 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 lise. I'm begging you please, down on my knees. Venise, Venise, Venise sans lise. Faisons nos valises, faisons nos valises, lise, lise, lise.
ces maudites farandoles. Y a tellement d'inconnus qui vous embarquent dans leur gondole. Et quand tu seras nul, lise, lise, faudra que tu dises des choses comme mon amour toujours. Laisse la lampe allumée même si ton châle sur l'abat-jour commence à t'enfumer. Fais pas de bêtises, lise, 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 lise. I'm begging you please, down on my knees. Venise, Venise, Venise.
Voilà, voilà, ça c'est fait, David McQueen sur béton.
Comment on a tous pensé à Bertrand Belin.
Ah non,
mais
on est pris par le vraiment. Temps, sinon tu penses bien qu'on l'aurait écouté jusqu'au bout.
Ça veut dire qu'on a 20 minutes de retard.
Voilà, on a 20 minutes de retard, donc il faut absolument qu'on rende l'antenne. Merci, merci à tous.
Merci à tous d'être là.
Le prochain rendez-vous
c'est
de Des Poches
Lésures. C'est un plaisir.
Le prochain rendez-vous de Des Poches
Lésures. Ben, je ne sais pas, mais par contre, le prochain rendez-vous de Des Hauts et Des Bas, c'est au Salon de Choiseul.
Oui, c'est ça. Mais Des Poches Lésures, c'est aussi toutes les semaines quand même, tu peux le redire.
C'est toutes les semaines, et à l'occasion des Salons de Choiseul, nous ferons trois chroniques sur la révolte
ouais.
dans la littérature.
Et Des Hauts et Des Bas sera en direct du Salon de Choiseul le jeudi après-midi, 27, 11, voilà, 27 novembre. Ah non, vraiment, c'est 11, ouais. Merci, à bientôt.
Salut.
À bientôt,
à l'année prochaine, à la Bourse Disque.
Ouais. Ciao.
Down on my knees. Elise, 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 Elise. Je fais de valise. Je fais de valise, Elise. Venise, 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 Elise. I'm begging you please.